Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Duchamp au micro, je vous parle ce 1er avril pour ce nouvel épisode. Merci d'être à l'écoute, que vous nous écoutiez sur les différentes plateformes d'écoute Spotify, Apple ou sur le site d'LNH.com où on est disponible en audio, en vidéo aussi, sur Spotify aussi, en vidéo. Merci d'être là aujourd'hui pour... écoutez, je vous le jure, pas de poisson d'avril, on compte pas faire ça aujourd'hui, je l'espère, mais on verra bien parce que mes deux collègues, Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage, étaient déjà un peu tannants avant le début, avant que je pèse sur le bouton enregistrer. Salut messieurs, comment ça va?
Bonjour, bonjour. Écoute, je pense que c'est parce qu'on enregistre un peu plus tard qu'à l'habitude. On est plus réveillés, le soleil est radieux à l'extérieur, on a de l'énergie.
Ah, belle journée. Ça, c'est, belle journée du printemps.
Soleil radieux, ouais. Tu
va pas, j'espère pas que pas vous avez gardé votre enfants, bouteille de crème solaire à portée de main, là, parce que...
Mais moi, j'ai quand même piégé mes deux filles en ce matin du 1er avril en leur disant, en réveillant Zoé, ma plus jeune, 10 ans, en disant, Zoé, fais vraiment pas de bruit, marche doucement. Mais faut que tu viennes voir. Avant, on va aller réveiller ta grande sœur. Ça, c'est le meilleur truc pour s'assurer que tes deux se réveillent à temps. En leur faisant croire qu'il y avait un orignal sur le balcon du condo au deuxième étage. Puis les deux, malgré qu'elles sont rendues à 10 et 12 ans, ils ont cru en marchant tout doucement. Puis une fois qu'ils arrivent devant le balcon, puis ils voient qu'il n'y a effectivement pas d'orignal, je pense qu'il y a eu peur, vous avez entendu, il a dû sauter, puis il est peut-être dans la rue, puis elles ont ouvert la porte pour regarder, voir s'il était effectivement dans la rue.
Jusqu'à temps que je leur dise, faut quand même préciser qu'il n'y a aucun escalier qui mène au balcon. Là. C'est un balcon qui est suspendu au deuxième étage. Là.
C'est cool, c'est un même sac. Sauf quand même haut, l'orignal, c'est bien connu. Donc, Rosalie et Zoé n'y ont vu que du feu.
C'est quand même 4000 pièces de thérapie que tu viens de leur coûter, mais bon, qu'est-ce que tu veux,
on a des assurances.
on a des bonnes assurances à la ligue, mon gars aussi le matin. Là, les poissons, là, pis tout ça, il y a 6 ans, là, pis il est heureux, il est heureux pas à peu près. Pis là, va t'amuser, mon grand, à l'école, puis tout ça. Mais, mais est-ce qu'il n'est pas un poisson d'avril? C'est les performances récentes des Canadiens, 6 victoires. Alors, 7 derniers matchs. Le coussin, là, les gars, c'est correct? Est-ce qu'on peut maintenant parler de séries éliminatoires à Montréal? Je pense que oui, c'est pas confirmé.
On a ajouté quelques couches dans les derniers jours.
Non, on va arrêter de t'agacer, Nick, avec le coussin. Là, je pense que c'est possible maintenant de regarder.
Là, on est rendu avec
vers le haut,
un sofa.
Plus
là.
Que vers le bas.
Exactement. Un sofa d'écart.
un lazy boy.
Relève tes pattes et regarde vers en haut parce que le Lightning, avec la victoire d'hier, le Lightning est de plus en plus près. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission. On va bien évidemment parler de ce qui se passe à Toronto où là, c'est un pouf puis il est en train de se dégonfler pas à peu près avec le congédiement de Brad Treliving. Il y avait conférence de presse hier à Toronto. On va parler de ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Les gros changements qui s'en viennent à Toronto. Et parlant de changements, ce qui s'est passé à Vegas, les Golden Knights qui congédient Bruce Cassidy font l'embauche de John Tortorella. Encore une fois, John Tortorella qui arrive dans une équipe qui a besoin de se relancer. On va aussi jaser de tout ça aujourd'hui à l'émission. Puis comme je vous dis, abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne pas rater le moindre balado. Les gars, on se lance. Hier, c'était un match à Tampa Bay pour les Canadiens qui était important parce que tu veux lancer un message à une équipe qui a des fortes chances que tu rencontres en première ronde des séries éliminatoires. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie du côté des Canadiens, autant au pointage que dans l'attitude qu'on a démontrée contre le Lightning?
Oui, mission accomplie. C'est difficile de dire le contraire. Victoire de 4-1, deux buts dans des filets déserts, mais défensivement, cette équipe-là a réussi à resserrer son jeu, donne beaucoup moins de buts, mais il faut aussi être honnête, il y a un gardien qui vient fausser certaines données. Jakub Dobesch est vraiment fumant depuis quelques semaines. Même chose pour Jacob Fowler. Son départ du côté de Nashville, Fowler était très bon. Mais c'est une victoire aussi en fin de match. On sait que le Lightning, c'est une version différente du Lightning. C'est une version avec un petit peu plus de muscle, un petit peu plus d'angle cette saison. En fin de match, il n'y a personne qui s'est laissé intimider. Puis j'ai pas détesté aussi la réaction des arbitres hier où on distribuait les 2 minutes. Là. Tout le monde sur la glace, go, 2 minutes. On finit le banc, restait environ 6-7 joueurs sur le banc. Ça allait vite une foire potentielle. Mais c'est une victoire de 4-1. Puis il faut aussi dire que c'est une victoire de 4-1 avec Arber Jacky et Jaden Struble comme cinquième et sixième défenseurs. Puis bravo à Struble et Jacky qui ont joué chacun là, plus de 12 minutes. Ils ont fait des minutes intéressantes à Martin Saint-Louis, à Stéphane Robida. Puis un jour ou l'autre, t'as pas le choix de leur faire confiance. Là, la perte d'Alexandre Carrier qui s'absentera pour 2 à 4 semaines fait en sorte que ça ouvre une porte pour Arber Jacky. Puis contre le Lightning, Jacky a réussi à jouer un match honnête, un match simple. S'est pas mis dans le trouble. Puis résultat, bien, il y a eu un temps de jeu assez intéressant là, pour lui en haut de 12 minutes.
Et tout ça après avoir joué à l'attaquant lors du match précédent.
Ben, ça y a peut-être permis de se délier les jambes un peu. Là. Il y avait de la rouille, mais son match à l'attaque passera quand même pas à l'histoire. Là. Cinq
non,
mises
mais
en échec.
Je veux dire, un moment donné, là, c'est comme si je te demandais de devenir chanteur. Là. Je veux dire,
ça arrivera pas, ça. Mais ce que j'ai aimé de ce match-là, par contre, c'est après la rencontre, quand il donne là, l'espèce de chapeau de loup, là, que les joueurs choisissent Arber Jacky pour être le joueur, entre parenthèses, le plus utile de ce match-là. Je trouve que ça parlait fort de la camaraderie au sein de l'équipe. On s'est ennuyé peut-être de la présence de Jacky. C'est un gars qui est quand même respecté, aimé de ses coéquipiers, puis qui ne dit pas un mot quand il se retrouve dans le rôle de septième défenseur, à sauter son tour, accepte son rôle. Et le premier à encourager Jaden Struble. Fait que ça, c'est... T'sais, ça peut paraître très anodin, mais c'est bon signe quand tu vois qu'à l'intérieur du vestiaire, les joueurs semblent s'aimer ou vouloir s'aider. Donc, ça peut te mener loin au cours d'une saison.
Souviens-toi, Michael Pezzetta, l'année dernière aussi, c'était ça. Il disait pas un mot, mais il y avait le respect de ses coéquipiers. C'était pas juste un gars dans le vestiaire que tout le monde respectait et appréciait le sacrifice qu'il faisait de sa carrière. Là. Parce qu'on s'entend, quand tu joues pas quoi 25-30 matchs de suite, à un moment donné, ça regarde pas bien pour ton prochain contrat. Là. C'est ça, la réalité. Jacky est pas tout à fait dans cette position-là parce qu'il est plus jeune et tout ça, mais quand même, ce respect-là, puis ça en dit beaucoup sur la culture des Canadiens aussi. Tu le vois, tu le vois dans le vestiaire, tu vois, c'est le party. Puis hier encore, là, c'est qui? C'était Stafkovski qui avait le chapeau de renard, ou je sais pas c'est quoi, là, mais c'est quoi l'animal qui
de
était...
Loup,
loup-renard, loufoque, ou peu importe. Ouais. Ceux qui écoutent la série, on salue les David Bocage de ce monde et tout ça. Qui, je sais pas si vous écoutez, là, bonne petite série. Notre chroniqueur d'ailleurs, Max Talbot, qui joue là-dedans, puis tout ça. Bonne petite série.
Grand acteur, Max.
Brave, honnêtement, là, on va tu y dire à Max, parce que c'est toi qui parle.
La pub d'Uncrustables, c'est très, très, très bon aussi.
Écoute, Max Talbot, il y a des niveaux, parce que t'as sa pub d'auto quand il était à Pittsburgh. Allez voir ça sur YouTube. C'est quelque chose. Il y a Uncrustable, puis il y a à la poursuite du rêve glacé. Je l'ai trouvé, honnêtement, tu y diras, particulièrement bon. Les calls qu'il faisait au gars, puis tout ça, c'était. Ben, d'après moi, oui, là, parce que c'est, en tout cas, c'est bon. On va leur souhaiter une deuxième saison, comme il demandait ce dimanche au Gala des Aviers. Les gens en Europe qui nous écoutent, ben écoutez. je ne sais pas si vous avez accès à ça, mais bon, bonne série. Revenez à nos moutons, mais qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, le top de loup, c'est ça. Bon, le chapeau de loup. Mais encore hier, c'est Slavkovski qui l'a eu, puis son message tout de suite a été de renvoyer la balle à deux gars qui avaient fait des marques importantes lors de ce match-là, Cole Caulfield puis Mike Matheson, qui ont obtenu leur 300e point dans les deux cas. C'est pas long, justement, que les félicitations, la balle rebondit d'un à l'autre. Puis c'est ça aussi, c'est ça une équipe qui a une culture solide.
Oui, puis ça, on le voit depuis le début de la saison. Puis je pense que même depuis l'arrivée de Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis, c'était vraiment... L'aspect principal de la reconstruction, c'était d'instaurer une culture. Puis souvent, dans les dernières années, chaque fois que le Lightning était de passage à Montréal, bien, on faisait référence à ça, à cette culture-là. Comment est-ce qu'on pouvait imiter le Lightning puis en arriver à être une équipe qui, peu importe les joueurs qui est dans la formation, soir après soir, est capable d'amener le même niveau de rendement. Puis hier, ben là, on assiste à un match où le Canadien s'approche à deux points de cette équipe-là, du Lightning, qui est un modèle à suivre depuis plusieurs années dans la Ligue nationale. Puis je pense que c'est pas étranger au fait que la culture est très, très forte. Puis c'est exactement ce qu'on a amené du côté de Montréal. Puis maintenant, on commence à en récolter les fruits, là, mais je pense qu'on va en récolter pendant plusieurs années, les plusieurs années à venir.
Je vais faire ma Gloria Rabajoie. Petit bémol sur le match d'hier. Nikita Kucherov n'était pas à 100%. il était blessé, ça s'est vu sur la glace. Quand il te manque un candidat au Trophée Hart, ça nuit un petit peu. Seule chose que j'amène, parce que j'amène ça sur le fait que si les Canadiens affrontent le Lightning en séries éliminatoires avec un Kucherov en santé, ça sera peut-être pas la même chose. D'ailleurs, le Lightning va venir à Montréal dans l'avant-dernière semaine de la saison. Donc, on verra à ce moment-là comment ça va se dérouler. Parce que justement, comme je dis, le message a été envoyé hier de toutes les manières. C'est du gros positif. Tu parlais de JF, de Jacob Debèche.
Mm-hmm.
Toute la saison, on en a parlé. Puis depuis quoi? Depuis la pause du match des Étoiles. Chaque fois qu'on parle de lui, c'est de plus en plus en positif. Plus en plus en positif. Puis là, c'est de plus en plus constant, plus en plus constant. Marco Marciano, la pause qu'il y a eu, le temps qu'il y a eu avec Dobesh durant le temps des fêtes, pas durant le temps des fêtes, durant la pause olympique, quand tu dis métamorphoser un gardien dans sa technique, c'était vraiment une réussite. Mais là, en plus, c'est que la boule de neige commence à rouler, comment on dit ça? Ça fait boule de neige, voilà. Ouais. Au niveau de sa confiance, là, il y a du swag, il a le droit de recommencer à parler aux médias, ça, c'est un gros plus aussi. C'est la première étoile de la semaine. C'est un gardien qui est transformé, mais qui sa transformation fait de lui, lui donne encore plus de confiance, puis tout ça se répartit dans son jeu. Là.
Mais je regardais, justement, tu sais, c'est pas anodin, là. Je regardais ses statistiques depuis le retour des Jeux olympiques. Ça donne l'échantillon pour voir le travail accompli avec Marco Marciano. Dobesh, c'est une fiche de 8 victoires, 3 défaites, aucune défaite en prolongation. Moyenne, 2,19, pourcentage d'arrêt de 927. Quand tu as un pourcentage d'arrêt en 2025-26 en haut de 915, c'est du solide. Il est à 927. Je trouve son contrôle de ses retours, c'est plus efficace qu'on le voyait en début de saison.
Son jeu de Jean-Pierre aussi.
Son jeu, sa confiance, son énergie devant le filet. C'est un joueur qui, tu sais, match après match, il est très intense. Là, tu le voyais hier après le match, c'est comme s'il venait de remporter une victoire au premier tour des séries. Il était vraiment heureux de vaincre le Lightning. Puis pour lui aussi, Tampa Bay, c'était une équipe piège. Il avait jamais connu de bon match contre le Lightning. Il s'était fait sortir du filet la dernière fois contre Tampa. Donc, il a réussi à rebondir. Joue bien. Jacob Fowler joue bien également les fois où on l'utilise. Puis ce qu'il y a d'intéressant avec Dobesh, parfois avait deux bons départs, mais le troisième, on dirait qu'il manquait un petit peu d'énergie. Là, il est capable de coller plusieurs matchs d'affilée. Est-ce que ça va tenir? On verra. Je trouve qu'au niveau des tirs accordés, c'est élevé dernièrement, mais c'est une équipe qui n'a pas de complexe. T'sais, oui, on parle d'une victoire contre le Lightning. Oui, le Lightning, Kucherov était peut-être amoché physiquement, ralenti là, par un virus qu'il a eu dans les derniers jours. Victor Hedman était absent, mais le CH a quand même battu les Hurricanes de la Caroline deux fois en peu de jours. On parle de la meilleure équipe de la division métropolitaine. Peu importe qui est devant le CH, cette équipe-là ne va pas trembler, a la confiance de pouvoir battre n'importe qui en ce moment.
Le nombre de buts marqués par match, moindrement que ton gardien fait les arrêts. Puis ça, la statistique là, qui montrait que
dès que le gardien avait un haut de 900, c'est hallucinant.
Parce qu'on est rendu à, je l'ai dans mes notes, là, 32-3, quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment impressionnant. 32-1-3, je pense, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Puis Jacob Dobesh, moi, ce qui m'impressionne le plus, puis je l'ai remarqué vraiment plus dans le match de dimanche contre les Hurricanes à Caroline, il y a eu une mêlée devant son filet. Puis combien de fois cette saison, on l'a vu chaque fois qu'il cherche la rondelle, puis là, il commence à se projeter d'un côté ou de l'autre, se lancer sur le côté. On disait qu'il nageait dans son filet. Là, il reste stable sur ses jambières en papillon, ferme le bas du filet, s'énerve pas avec les possibilités. Est-ce que la rondelle va sortir de tel côté? Il scelle le bas du filet, reste très, très calme. Puis ça, c'est le changement majeur, selon moi, dans son jeu. Il est toujours droit devant la rondelle, attend les lancers, essaie pas d'anticiper trop ce qui va se passer. Puis je pense que c'est ça qui fait la recette du succès. Je l'ai dit hier à JF, on dirait que j'ai encore la petite crainte qu'à un moment donné, il va connaître un mauvais match comme il nous a habitués peut-être en première moitié de saison. Mais là, la confiance...
Ça, c'est que ça arrive pas, là.
C'est ça. La confiance fait juste grandir. Puis j'aime aussi la gestion du Canadien de dire, ben on lui donne deux départs, après ça, on revient avec Fowler. Peu importe si t'as gagné, on fait rouler les on donne un petit repos, va resetter, puis il repart. Puis je pense que... je pense que c'est Marc-Antoine Godin qui avait amené ça dans une question. Il disait, est-ce qu'il y a des gars qui sont plus... qui t'en donnent plus quand ils courent après une chaise que quand ils sont assis sur la chaise? Dans le sens, si on lui confirme, t'es le note numéro un, t'es le gars avec qui on y va... Peut-être qu'il y a un petit ralentissement, mais Dobesh prend tellement tout à cœur que si tu lui dis, ben donne-nous-en, on va t'en donner, peut-être que c'est là que tu vas chercher le meilleur de lui. Puis le fait que Jacob Fowler soit derrière lui, je pense que c'est pas étranger non plus au fait qu'ils se disent, écoute, il y en a un qui veut cette job-là, qui est identifié comme le gardien d'avenir de cette équipe-là, qui me souffle dans le cou. Si je connais un ralentissement, ben ça va être lui qui va prendre le lead. Puis je pense que ça l'aide justement à... Il est tellement compétitif que ça l'aide à ressortir le meilleur de lui-même. Là.
C'était la discussion que j'avais avec Jocelyn Thibault vendredi pour sa chronique. Puis je lui ai demandé, Jocelyn, j'ai dit, est-ce que il est officiellement numéro un, Jacob Dobesh? Est-ce que c'est vraiment un vrai numéro un maintenant chez les Canadiens? Puis Thibault me disait, pas encore. Dans le sens que là, c'est sa job à perdre. Il n'y a pas de doute que c'est le gardien numéro un en ce moment. Mais est-ce que ça devient un numéro un qui a une laisse, c'est vraiment longue? Est-ce qu'il y a une longue corde? Pas non plus. Si jamais il y a 3-4 mauvaises performances de suite, Fowler va tout de suite revenir dans le portrait. Donc, ça le force Dobesh à être alerte, à être allumé sur ce qu'il fait. Jeff, tu parlais de... C'est quoi, 922 son taux d'efficacité depuis la pause olympique, Dobesh? Non seulement 922, c'est vraiment bon, peu importe l'époque. Là, souvenez-vous, là, les grosses années de Martin Brodeur et tout ça, quand tu avais 922.
C'est même 927, Nick.
927, bon, encore mieux. 927, c'était des chiffres vraiment solides. Mais présentement, le taux d'efficacité moyen dans la Ligue là, cette année, ça tourne autour de 897.
Exact.
Fait que là, 927, là, t'es pas au-dessus de la masse juste un peu. Là. Tu l'es incroyablement. Dobesh, je regardais les statistiques avancées dans ses derniers départs. Dans ses 10 derniers départs, là, c'est pas ses 3-4 derniers, dans ses 10 derniers départs, il est dans la crème de la crème de la crème de la Ligue. Ça sort dans une saison où les Canadiens vont avoir eu tellement de problèmes à revenir de la, pas à revenir de l'arrière, mais à jouer des matchs où tu dois jouer du hockey de rattrapage parce que Samuel Montembeau donnait un but trop rapidement, il y avait des buts en première période, puis tout ça. Bien là, enfin, tout ça se place, ça tombe tout en place. Puis d'ailleurs, tout semble tomber en place pour Martin Saint-Louis, puis tout ce qu'il enseigne depuis 2-3 ans en même temps, là, tout ça est en train de tomber en place.
Oui, exactement. Puis tu sais, Guillaume parlait tantôt, la fiche du Canadien, des Canadiens, quand un gardien maintient un taux d'efficacité 900 et plus, 900. Il n'y a pratiquement pas de défaite. Mais cette équipe-là marque des buts. T'sais, Nick Suzuki est rendu à 92 points. Cole Caulfield est rendu à 81 points. Deux marqueurs de 80 points et plus au cours de la même saison. On n'avait pas vu ça depuis un bail à Montréal.
Il doit être milieu des années 90 à peu près.
Moi, j'avais sorti la stat.
Dans Fousse-Turgeon,
si
sûrement, quelque chose comme ça.
Oui, c'est dans Fousse-Turgeon, si je peux finir par la retrouver. Mais regarde, Juraj Slafkovský devrait connaître une saison de 70 points. Il est à 66 en ce moment. Lane Hudson a déjà dépassé le plateau des 70. Ivan Demidov, pour un attaquant recru, va se rendre à 60. Donc, tu sais, offensivement, c'est pas un problème. Si tu pouvais finir par être plus structuré défensivement, puis surtout miser sur un gardien stable, ça vient changer complètement la donne pour cette équipe-là. C'est intéressant de voir que Dobesh, tu sais, prend le flambeau, puis il veut pas le perdre. Il maintient son poste, mais Fowler aussi, c'est un bon gardien. Puis dans l'avenir, ce sera qui le numéro un? On aura le temps d'avoir ce débat-là dans quelques saisons, mais juste offensivement, de voir, je pense que c'est 95-96, j'ai eu de la misère à retrouver ma
statistique. Oui, c'est ça. C'est à peu près la seule saison complète de Turgeon à Montréal, là, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est à l'époque où ils avaient trop de bons joueurs de centre, ouais. Puis il fallait
une
en
ligne de centre d'Enfous, Turgeon, Caillou. Et tu as démantelé ça en l'espace de 2-3 ans. En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Ça fait encore... ça a été tous les dominos qui sont tombés au milieu des années 90 à Montréal. Ouais, c'est ça, 95-96, la seule saison complète de Turgeon à Montréal avant d'être échangé à Saint-Louis. T'sais, on parle de Dobesh, on parle de Fowler, mais le jeu complet. D'ailleurs, Dobesh, il disait hier en entrevue après le match, il dit « Oui, j'ai reçu beaucoup de lancers, mais je les voyais venir. » Il avait pas l'air de dire que sa soirée avait été si difficile que ça. Puis tu regardes les derniers matchs des Canadiens. On a donné deux fois sur 5, 6, 7, 8. 8 derniers matchs, deux fois on a donné 3 buts. Les 4 derniers matchs, on a seulement donné un but à chaque match. Il n'y a aucune équipe qui roule à ce rythme-là présentement. Donc, il y a de quoi, comme je disais, il y a de quoi qui est dans tous les... Oui, les gardiens, mais c'est dans la manière, c'est dans tout ça. On a longtemps parlé du système défensif de Martin Saint-Louis, là, du man-to-man, puis tout ça, puis combien de fois Saint-Louis disait non, c'est pas si... Non, ça va être correct, non, ça va être correct. Est-ce que c'est en train, justement, de devenir correct? Est-ce qu'enfin, tout est là? Enfin, tout a compris, tout le monde a son rôle à la bonne place?
Oui, mais j'ai quand même un bémol par rapport à ça. Je dirais que moi, ce qui m'inquiète en ce moment, puis tu sais, je sais que c'est pas très populaire de s'inquiéter dans une séquence de 6 victoires, là, mais...
Ah ouais, vas-y, toi aussi. Embarque dans le bateau avec l'arrière à Bajouet, toi aussi. Là.
Le rendement du deuxième trio, le rendement défensif du deuxième trio m'inquiète. Oliver Kapanen, Ivan Demidov et Alex Newhook. C'est une combinaison qui ne fonctionne pas. Pas si bien que ça depuis qu'on les a réunis ensemble. Puis Martin Saint-Louis semble pas très enclin à essayer d'autres choses à ce niveau-là. Bon, il est limité dans l'effectif en ce moment avec la blessure à Kirby Dack, à Alexandre Texier. Mais même avant ça, il voulait pas apporter de changement. J'ai fait un petit décompte là, dans les 8 derniers matchs au chapitre des tirs tentés pour et contre. Ce trio-là est à moins 49. Et là, il y a le match contre les Hurricanes à Caroline de dimanche qui vient fausser un peu les données parce qu'on était à moins 18 dans ce match-là. Ça n'a pas été très facile, mais honnêtement...
où ça roulait pour eux.
C'est un des rares matchs.
Dans cette séquence-là, c'est le seul match où on a un différentiel positif dans cette statistique-là. Puis je pense que ça en dit beaucoup. Là. Les tirs tentés, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps dans ta zone puis que l'autre équipe peut s'amuser à tenter de décocher des tirs. Donc, pour moi, ça pourrait être un problème éventuel parce que là, on approche des séries éliminatoires. On va affronter une équipe potentiellement 7 fois de suite. On va s'ajuster. On va y aller de confrontation. Si on identifie ce deuxième trio, puis j'imagine que les équipes de la Ligue nationale ont accès aux mêmes statistiques qu'on a sous les yeux, là. Si on identifie ce trio-là comme étant celui qui peut te permettre de créer de l'offensive, bien, on n'hésitera pas. Là, quand on va avoir le dernier changement, le deuxième trio ne pourra pas commencer des séquences dans sa zone défensive. On va essayer d'envoyer le meilleur trio adverse contre ces trois-là parce que défensivement, ça ne fonctionne pas. Hier, juste en fin de match, il restait à peu près 5 minutes. C'est ce trio-là qui est sur la glace. Il y a eu une mêlée d'environ 30 secondes devant le filet de Dobesh où tout le monde tentait de trouver la rondelle. On s'est retrouvé là parce que justement, ce sont des séquences qui s'étirent. Puis là, tout le monde est à bout de souffle. Puis l'autre équipe réussit à s'approcher du filet. Puis là, on menace, tu sais. Fait que pour moi, faut au moins, d'ici la fin de la saison, essayer quelque chose d'autre. Je sais pas quoi. Je pensais peut-être à un Zachary Bolduc, un gars plus gros qui est capable d'aller chercher les rondelles, de contrôler le jeu un peu plus parce que ce trio-là, c'est one and done en zone offensive. Là. On entre, on a une petite passe, un tir au but ou on perd la rondelle tout simplement puis ça revient de notre côté. J'ai l'impression qu'il manque un ingrédient à ce trio-là. Puis tu sais, on se souvient de la bonne séquence qu'ils ont connue là, quand Juraj Slafkovský est avec eux. Je pense que c'est ce prototype de joueur-là. Je sais qu'il n'y en a pas 15 chez le Canadien, mais quelque chose qui s'approche de Juraj Slafkovský pour essayer de permettre à ce trio-là de s'épanouir un peu plus parce qu'en ce moment, j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport à eux.
Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà dit, il n'y a pas deux Juraj Slafkovský dans l'équipe, donc tu ne peux pas le faire jouer au sein de deux trios. Ce qui risque d'arriver, par contre, si Newhook, Kapanen, Demidov continuent d'avoir autant de faiblesses défensivement, qu'ils passent trop de secondes dans leur propre zone, le troisième trio est encore celui qui va obtenir le temps de jeu d'un deuxième trio. Jake Evans, Zachary Bolduc et Josh Anderson, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on risque de continuer de voir. Evans va être ton joueur de centre qui va avoir les missions contre le gros trio de l'équipe adverse. Il est capable de remplir de telles missions. Zachary Bolduc, moi je trouve, même s'il noircit pas la feuille de pointage, a pu finir, Bolduc te donne quand même du bon hockey depuis le retour de la pause olympique. Je le trouve intense. Et il est moins perdu aussi dans son propre territoire. Mais je serais curieux de voir si Alexandre Texier peut retrouver la forme. Texier là, soigne une blessure au bas du corps. Je serais curieux de voir Texier avec Kapanen et Demidov. Alex Newhook est un bon patineur. Alex Newhook peut être bon en infériorité numérique, mais je ne crois pas qu'Alex Newhook a le réel profil pour être un attaquant top 6 dans la Ligue nationale. Puis, tu n'as pas le choix d'encadrer, d'aider Kapanen et Demidov. Ça reste deux jeunes joueurs. Kapanen est à sa deuxième saison en Amérique du Nord, mais il reste une recrue cette saison. Demidov, t'as beau lui dire, mais let's go, Ivan, tu vas transporter ce trio-là. Ivan Demidov a 19 ans. Ça a pris combien d'années à Slafkovski avant qu'il devienne un joueur d'impact? 3 ans. Donc là, on demande à un gars qui a joué 2 matchs l'an dernier en saison, qui a joué le premier tour, puis cette année, il y a une 70 matchs derrière la cravate. On lui demande de transporter ce trio-là. Je trouve que c'est trop de responsabilité pour Ivan Demidov. Puis Texier, tu sais, c'est pas le gars le plus physique, c'est pas, mais il est intense, il a un bon bâton.
Protection de rondelle,
il est. Protection de rondelle, il est quand même très fort, Alexandre Texier. Puis c'est un gars qui a beaucoup de qualités offensives. Les habiletés naturelles, ça, c'est pas un problème avec Alexandre Texier. Mais le gros hic, c'est qu'il est pas en santé. Il y a eu quelques matchs où il semblait avoir trouvé sa vitesse, mais aux Jeux Olympiques, il cachait clairement une blessure. Avant le départ des Jeux, il avait manqué quelques matchs. Là, il est de retour à l'infirmerie. Donc, est-ce que tu as le temps de faire cette expérience-là avant le début des séries? Il reste quoi? Il reste 7 matchs au calendrier? 8 matchs? Il y en a 74 de jouer, donc il reste 8 matchs au calendrier. Ça va venir.
Pour ajouter à ce que tu disais, JF, justement, je regardais le temps de jeu dans les 7 derniers matchs à forces égales. Là, ben Jake Evans est le 3e attaquant le plus utilisé. Ouais. Newhook est 7e, Kapanen est 10e. Puis Demidov est 8e. Donc, le deuxième trio, ce n'est que par nom, parce que réellement, on
l'utilise
comme un troisième
ou un quatrième
trio. Oui,
mais si tu viens donner un coup de main à ce trio-là, il va ressembler davantage à un deuxième trio.
Je comprends la répartition du temps de jeu et tout ça, mais en série, je veux dire, le troisième trio, j'ai rien contre Zachary Bolduc, Anderson, Evans, mais c'est pas eux ta production secondaire. Bon, la production secondaire va venir de Demidov, de Kapanen. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenter de mieux les entourer pour qu'ils puissent justement produire offensivement. Parce que en série, j'ai hâte de voir aussi si le premier trio fonctionne à plein régime, là, mais on va les observer puis on va tenter de les museler. Là. Fait qu'une fois que ce premier trio-là, si on réussit du côté de l'adversaire à les museler, ben il faut que ton deuxième trio réussisse à produire. Puis là, en ce moment, je pense que C'est pour ça, moi, que ça c'est la chose qui m'inquiète le plus, parce que je me dis, en série, ça va peut-être être un petit peu moins facile pour le premier trio de produire autant qu'il le fait en ce moment. Puis c'est là que tu vas avoir besoin d'un deuxième trio qui fonctionne à plein régime.
Je vais faire un crime de lèse-majesté, mais pourquoi pas? Puis je sais que statistiquement, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas séparer Slafkovski des deux autres pour amener Slafkovski sur le deuxième trio? Bolduc ou Texier sur le premier. Quand tu regardes tous les succès que le deuxième trio a eu avec Slafkovski, là, je parle en séries éliminatoires, je ne parle pas nécessairement là, en séries éliminatoires, quand tu vas avoir besoin de plus d'équilibre, ben c'est peut-être la chose logique à faire. C'est juste que là, tu le fais quand les séries vont commencer. Tu le fais après 2 matchs en séries éliminatoires, quand tu tires par 2 matchs de l'arrière, puis tu as compté juste un but.
Mérite d'être posée. Je suis convaincu que Martin Saint-Louis a jonglé avec cette possibilité-là, mais il a choisi de ne pas le faire. Il a gardé les 3 gros chevaux ensemble. C'est difficile de venir le contredire quand tu viens d'en signer 6 d'affilée. Suzuki roule à fond. Caulfield n'arrête pas de marquer. C'est pas un hasard aussi là, si Caulfield pratiquement tous les jours, tous les matchs réussis à obtenir un but. Slafkovski a un impact, il n'y a aucun doute, au sein de son trio. Donc, c'est difficile de dire, bon, mais on va toucher au trio qui a le plus de stabilité. Tu sais, depuis pratiquement 3 ans là, qu'ils sont ensemble, ils se connaissent, ils peuvent jouer avec instinct. Puis tantôt, Nick, je vous parlais des gars de 80 points et plus. Là, j'ai fini par retrouver ma fameuse page. Ceux qui ont moins de 30 ans, là, ils n'ont pas été chanceux. Là. 4 fois seulement dans les années 2000, à Montréal, il y a eu des joueurs avec 80 points et plus. deux fois Kovalev. Alex Suzuki. Oui, Alex Kovalev en 2007-2008. Suzuki deux fois l'an dernier cette année, Cole Caulfield cette année. Donc, quatre fois uniquement dans les années 2000. La dernière fois qu'on avait vu deux gars à 80 points, c'est 96-97 d'Anfous et Ricky, 81-80 et 95-96 d'Anfous et Turgeon. Donc là, il y a un renouveau offensif, puis techniquement, ça ne devrait pas arrêter. Là. Puis même qu'un jour, Slavkovski pourrait ajouter son nom à cette liste-là des 80 et plus, peut-être Ivan Demidov. Donc, le talent offensif à Montréal
peut-être revient à vitesse.
Hein? Ben, probablement, Lane Hudson. Il y a de fortes chances. Même là, cette année, il cogne à la porte.
Il est là, là. Il était à la porte. Exact. Là. Tu parlais, tu reviens dans le passé depuis tantôt. Oui. Puis tu vas reculer un peu plus loin avec la course aux 50 buts de Lane Hudson. Cole commence lentement, mais très sûrement à 14. Ouais, la course aux 50 buts de Cole Caulfield. Qu'est-ce que j'ai dit?
Tu as dit
Cole Hudson. Je mélangeais. On efface tout ça.
Pardonne, Nick.
Je recommence. La course aux... La course aux 50 buts de Cole Caulfield. Bon, on parle de ça depuis tantôt. T'as passé un appel. T'as fait un long distance. Outre-mer, Suède. T'as rejoint le petit et grand,
mais
ça, en même temps.
Ça, c'était pour une autre course. C'est la course aux 100 points.
Exactement. Ouais, voyons, ça va pas bien, les affaires.
Mais il y a trop de chiffres. Il y a trop de talent offensif dans cette équipe-là. Mais c'est une preuve qu'on se perd, là.
Non, mais y a-t-il quelqu'un qui a joué dans mon planning? Parce que là, j'ai effectivement... T'as rejoint Mats Näslund du côté de la Suède, à qui t'as parlé. Tu as parlé de Cole Caulfield, mais surtout tu as parlé de Nick Suzuki. Näslund, c'est le dernier marqueur de 100 points à Montréal. C'était en 86, l'année de la Coupe Stanley. Näslund n'était pas... Oui, va avoir été le meilleur marqueur de son équipe cette année-là, mais c'était peut-être pas... le joueur de cette équipe-là. Il y en avait tellement autour de lui, tandis que Suzuki est vraiment peut-être plus au-dessus. Comment il voit ça, Mats Näslund? Premièrement, est-ce qu'il écoute les matchs? Comment il trouve ça? C'est quoi sa lecture de cette nouvelle équipe-là des Canadiens?
Il ne regarde pas de façon... Là, il ne va pas s'asseoir sur son divan, suivre attentivement tous les matchs du CH. Il dit par contre qu'il avait regardé religieusement les Jeux olympiques, il avait suivi Nick Suzuki, il était curieux de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec l'équipe canadienne. Quand on lui demande, s'il est conscient qu'il est le dernier joueur de 100 points et plus dans l'histoire du CH, ça fait maintenant 40 ans, il part à rire en disant, écoute, c'est pas parce que j'ai une bonne mémoire, il dit, chaque fois que je pose les pieds à Montréal, on me le rappelle, on parle comme quoi je suis le dernier joueur de 100 points et plus de l'organisation. Il croit sincèrement que Suzuki peut atteindre le plateau des 100, mais il n'est pas si chaud à l'idée de le voir obtenir 100 points. Il y a un côté un petit peu, le côté fier, orgueilleux de dire, je déteste pas ça, garder la marque, mais si jamais il doit le faire, tant mieux, ça fait assez longtemps. Surtout, c'est un joueur qu'il aime, qu'il décrit comme étant intelligent, travaillant, place les succès de l'équipe avant ses propres succès. Donc, pour lui, ça cadre avec sa philosophie d'un bon joueur de hockey. Puis, ce qui rappelait aussi à juste titre, oui, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu un gars de 100 points, mais ce qu'il y a d'encore plus frappant pour démontrer la sécheresse offensive des dernières années, ça fait aussi 40 ans qu'il n'y a pas eu un joueur des Canadiens parmi le top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Näslund, lui, avait fini 8e en 85-86. Il est également le dernier. Puis, petite anecdote, là, Mats Näslund disait que la soirée où il a obtenu 100 points, c'était contre les Bruins de Boston au mois de mars. C'est moi qui lui rappelais. Il avait obtenu un but, une passe ce soir-là, une passe sur un but de Peter Svoboda. Je dis, est-ce que ça te sonne une cloche? Puis il dit, j'aimerais ça t'aider, mais il dit non. Tu sais, il dit, il n'y avait pas eu de feu d'artifice. Il n'y avait pas eu de... C'était pas un exploit dont on parlait à tous les jours, 100 points. Mais ce qu'il se souvient
pas,
le plus...
Il se faisait pas taguer sur Instagram.
Non,
Twitter,
mais c'est ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi à l'époque.
Ouais.
Mais il dit que cette année-là, à Noël, il était deuxième meilleur marqueur de la Ligue, à égalité avec Mario Lemieux. Celui qui était au sommet, c'était Wayne Gretzky. Gretzky avait déjà 90 points en une trentaine de matchs. Näslund avait 58 points, je pense, à égalité avec Mario Lemieux.
Ça, c'est
et la Ligue nationale
Gretzky,
remettait des chèques, des bonus. Donc, Gretzky avait reçu 5 000 $. Näslund et Lemieux avaient reçu un chèque de 2 000 $. Puis il dit ça, je m'en souviens. Il dit c'était juste dans le coin de Noël, ça avait permis d'acheter de plus gros cadeaux. Les salaires de l'époque n'étaient pas les salaires d'aujourd'hui. Et Wayne, petite parenthèse, lui avait fini avec 215 points. C'est un record qui tient toujours. Puis pour Naslund, par contre, l'année 85-86, c'est l'année de la Coupe Stanley. C'est l'année du défilé sur la rue Sainte-Catherine. Se souvenait de ses partenaires de jeu. Jouait avec Bobby Smith et Shel Dallin. Puis en série, Claude Lemieux avait remplacé Shel Dallin. Donc, c'était le fun de parler avec Naslund, qui garde un œil sur cette quête des 100 points pour Nick Suzuki. Puis il dit, il y a deux ingrédients. Pour obtenir 100 points, là, il dit, la recette ne change pas. Tu dois rester en santé, puis tu dois rouler en avantage numérique. L'année de ses 110 points, il avait eu 50 points en avantage numérique. Puis Suzuki, lui, sur 92, il a déjà une quarantaine de points en avantage numérique. Et Suzuki est toujours en santé. Donc, deux ingrédients clés.
Shel Dallin, qui a toujours le record de points pour
71
une
points
du color, 71 points. Puis ça avait été tout aussi. Ça n'avait pas malheureusement levé plus que ça. D'ailleurs, tu te dis, en séries éliminatoires, avait été remplacé sur ce deuxième trio-là. Les gars, je vous amène sur la suite pour les Canadiens. Je regardais un petit peu, on en a parlé quand on s'en allait pour la deuxième portion de la saison. Les Canadiens avaient une des cédules les plus difficiles au niveau du pourcentage de points des autres équipes. Mais là, quand on regarde présentement, ben, le pire est passé. Là.
Ouais.
Le pire est passé pour le tricolore. Et là, on s'en va sur une séquence où on va affronter les Rangers de New York jeudi, les Devils deux fois samedi et dimanche, les Panthers par la suite. Si les Panthers n'en marquent pas 5 comme en première période hier contre Ottawa, ça devrait aider. Mais ces 4 équipes qui participeront pas aux séries éliminatoires, je veux dire, la porte est ouverte là, pour le tricolore pour aller chercher les points qui étaient beaucoup plus difficiles à aller chercher, qu'on a peut-être échappé ici et là quand on affrontait les équipes les plus difficiles. C'est en même temps, est-ce qu'il y a un risque, selon vous, peut-être de s'asseoir dessus tellement ça va trop bien?
Ben, je penserais pas. Je pense que l'équipe a l'air d'être en mode série. Puis Martin Saint-Louis le répète depuis quelques semaines déjà. D'ailleurs, c'était la cause de la grande controverse là, qui a eu lieu la semaine dernière là, avec les questions sur la formation et tout ça. Donc, c'est une équipe qui est déjà en mode série. Je vois pas un ralentissement parce qu'on joue contre des équipes qui sont pas en série ou peu importe. T'sais, on l'a vu hier. Les Sénateurs se battent pour une place en série. Les Panthers, eux, ont déclaré forfait. On dit que la moitié de l'équipe ne jouerait pas d'ici la fin de la saison. Puis ils marquent 5 buts en première période. C'est ça. Tout est possible dans cette ligue-là. Ouais. C'est pas parce qu'une équipe ne fait pas les séries, surtout dans l'Est. La différence entre les équipes qui sont en série et les équipes qui sont pas en série est un peu moindre. Là, c'est quand même des équipes dangereuses qui peuvent te faire payer en fin de saison si tu lèves le pied. Je vois pas comment le Canadien peut ralentir, surtout que depuis un mois, on dit qu'on regarde en avant et non en arrière. Et là, en avant, ça se rapproche. Là. Le premier rang est quand même accessible. Si on prolonge cette séquence-là contre les équipes, contre les Rangers, deux fois les Devils, une fois les Panthers, c'est 8 points qui sont à la portée du Canadien. Avec 8 points, on pourrait s'approcher dangereusement de ce premier rang-là, de s'assurer de l'avantage de la glace en série. Donc, pour moi, je pense que l'objectif est assez clair pour les Canadiens. Puis là, on commence à le voir de plus en plus gros. Je vois pas pourquoi on lèverait le pied rendu à cette étape-là.
Ouais. Écoute, pour ceux qui nous écoutent ce matin, là, les Canadiens sont à 2 points du Lightning, même nombre de matchs joués. Les Sabres ont 4 points d'avance sur le tricolore, mais un match en main. Donc, tu es à 2 points plus ou moins. On n'aura pas, par contre, le bris d'égalité, là, ça c'est certain, d'ici la fin de la saison, là, parce qu'on a 31 victoires en temps réglementaire contre 41 pour les Sabres, 42 pour le Lightning. Et puis derrière la course, honnêtement, là, les Capitals qui sont de retour ce matin, c'est là-dedans. Les Flyers qui cognent à la porte, les Red Wings qui plantent du nez, Blue Jackets, les Bruins, on regarde, il faut regarder quand même derrière, là, parce que les Bruins sont fatigants. Là.
Les Bruins sont quand même pas très loin.
Non, on n'abandonne pas du côté des Bruins.
Puis,
pas du
combien
tout.
De fois cette année on a dit que la division, la centrale, c'est comme le grand piège de voir les trois ténors, l'Avalanche, les Stars, le Wild. Mais quand tu regardes en date du 1er avril, c'est pas mal la même histoire avec l'Atlantique. Là. Les Sabres, le Lightning, le CH, il y a de ces équipes-là peut-être un duel Tampa-Montréal au premier tour. On va parler d'équipes qui vont terminer à facilement plus de 100 points les deux. Mm-hmm. Même chose que du côté de la centrale, les Stars qui risquent d'affronter le Wild. Le Wild a un petit peu ralenti. Donc, Avec la formule actuelle des séries, il y a de très bonnes équipes qui vont tomber au premier tour.
Et c'est de là l'importance de gagner ta division.
Exactement. Pour essayer d'attraper une équipe qui sera repêchée pour l'instant, ouais. Les Bruins, ou tellement difficile de dire qui sera la deuxième entre les Blue Jackets, les Pingouins, les Islanders, les Flyers, les Capitals. Il y a du monde.
Tout le monde est là présentement.
Question simple, les boys, là. Caulfield, est-ce que Caulfield atteint 50 puis est-ce que Suzuki atteint 100 points? Est-ce qu'on peut dire que les deux vont réussir l'objectif?
Si on reste en santé, je vois pas comment on peut ne pas l'avoir, là.
Moi, je veux juste que Caulfield attende
le retour à Montréal.
4 matchs au Centre Bell pour atteindre son 50 buts. Ça enlèverait un peu de magie là, qui marque son 50e avant de revenir à Montréal. Je pense que la table est mise pour ça. On est à 47. Il reste 2 matchs à l'étranger d'ici. Donc, techniquement, ça devrait tenir jusqu'à au moins dimanche. Ça devrait.
Au rythme qui va présentement, là, je dirais que
ça risque d'être réglé dimanche.
Samedi, là, c'est ça.
Ouais, au maximum dimanche, mardi, d'après moi, on va.
Dimanche,
on va
c'est la journée de la résurrection aussi. Donc, dimanche, le premier depuis Stéphane Richer. Contre les Devils.
Jeff a déjà écrit son texte pour ça.
Oh oui, mon texte est déjà écrit.
Contre les Devils en plus. Là. Wow,
Lancer une autre ancienne équipe de Stéphane
Richer. Ben,
le diable, la résurrection, c'est excellent.
Contre aussi probablement le meilleur joueur au monde et le meilleur joueur de sa génération, Jack Hughes, étant donné qu'il a gagné la médaille d'or et qu'il a marqué le but à 3-3. Donc, ça pourrait être le fun que Caulfield marque contre son grand ami.
On sentait pas aucunement l'amertume dans.
Non. Hey, juste en terminant notre portion, c'est Canadien. Guillaume, Michael Age, on parle beaucoup de lui, il pourrait se joindre à l'équipe. Il y en est où présentement, Age, au niveau de l'NCAA, puis tout ça? Puis c'est la possibilité?
Il reste possiblement au maximum 2 matchs. Je crois que c'est cette fin de semaine, n'est-ce pas?
C'est le 9 et le 11 avril.
Non, c'est la fin de semaine prochaine.
Ah, c'est la fin de semaine.
9 et 11 avril du côté de Vegas.
De Vegas, oui, c'est ça. Fait que ça ira pas avant au moins la mi-avril. Puis là, dernièrement, je sais qu'il a raté un match en raison d'une blessure. Revêtu l'uniforme, même s'il était blessé, là, il était comme 13e attaquant aussi au dernier match. Il y a quand même du temps avant les prochains matchs. Donc, d'après moi, il devrait être rétabli de cette blessure-là. Mais il reste la demi-finale et la finale. Donc, si on gagne le premier match, on va disputer la finale.
Les Wolverines du Michigan vont jouer contre les Pioneers de Denver. Denver qui, année après année, réussit à avoir une bonne équipe. Mais Michigan a l'étiquette de première tête de série. Puis l'autre demi-finale, les Badgers du Wisconsin contre North Dakota. Donc, si Michigan gagne, passe en finale le 11. Donc, c'est si Michael Age, ce serait vraiment un scénario.
Peut-être
un ou deux matchs, ça ressemblerait à un scénario à la Lane Hudson où il arrive vraiment pour le dernier droit d'une saison. Mais Lane Hudson arrivait dans une année où les deux derniers matchs n'avaient aucune signification. Tandis que cette année, les deux derniers matchs, même si le CH peut avoir une place en série assurée, tu peux continuer à te battre pour le sommet de la division Atlantique. Donc, ça serait une gestion complètement
différente. Pour le deuxième rang, avoir l'avantage de la glace.
Exact.
Pas certain qu'on va vouloir l'intégrer à ce moment-là. Surtout s'il vient de se taper le Frozen Four puis tout ça. Que oui, c'est juste 2 matchs, puis il y a une longue pause, mais quand même, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de choses.
Mais juste, Nick, tu sais, en ce moment, si Kirby Dack revient au jeu, tu sors.
Ben, c'est
ça. Joseph Veleno joue quand même du hockey intéressant. Il joue son rôle au sein d'un quatrième trio. Dak peut revenir au jeu, Texier peut revenir au jeu. Mm-hmm. Si là, tu ajoutes Michael Age, mais ça implique que tu dois sortir 3 joueurs de la formation.
Tout va dépendre du portrait. Là. S'il n'y a plus rien à gagner, rien à perdre, ben, peut-être qu'on va reposer des joueurs, ce serait une occasion. Mais
là, en même
les
temps,
chances sont assez minces que, que ça se passe.
En même temps, tu y fais perdre une année de contrat pour un match en sachant que peut-être que tu ne l'utiliseras pas en série.
Oui, mais lui, le joueur, pour signer son contrat immédiatement.
Je pense que l'agent de Michael Hayes, je ne suis pas en accord
avec lui. Année de contrat.
Oui, je ne suis pas en train de me mettre dans les chaussures de son agent. Je me mets dans les chaussures
de Kent Hughes et Jeff Gorton.
C'est ça, exactement. Pour un match, je ne suis pas certain que ça vaut. Ben, écoute, peut-être en séries éliminatoires, mais là, comme tu dis, il y a d'autres options sur le banc en ce moment là, qui ont plus d'expérience. Les gars, hey, ce matin, on jase. Comme on disait, on enregistre plus tard, on a visiblement plus d'énergie. Maple Leafs de Toronto qui ont congédié le directeur général Brad Treliving après un passage de 3 saisons qui n'aura pas été dans le succès, si je peux dire, au niveau des décisions de Treliving. Il n'y a pas personne qui est nécessairement surpris, même si il y a des rumeurs, certains journalistes ont avancé que durant la pause olympique, il y avait eu des discussions pour une prolongation de contrat de Treliving, mais de la façon que ça s'est passé quand on est revenu au jeu après ça, ben les Maple Leafs sont piqués du nez et Treliving a été congédié. Conférence de presse hier avec le président PDG de l'organisation, le Maple Leaf Sports and Entertainment, Keith Pellet. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je ne sais pas pour vous autres, mais je ne suis pas sorti de cette conférence de presse-là rassuré sur le plan à moyen et court terme des Maple Leafs. Je ne sais pas vous autres.
Mais il a parlé
qu'il y a beaucoup de gens qui se sont... Oui, c'est ça. C'est surtout ça le problème. Je pense qu'il a parlé beaucoup. Puis, tu sais, on en parlait avant de commencer à enregistrer. Puis, je pense pas que c'est un gars qui est impliqué dans la gestion day-to-day d'une équipe de hockey, des Maple Leafs et tout ça. Pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, il a parlé beaucoup. Il a vanté à peu près toutes les autres équipes de l'Est. Il a avoué qu'il n'avait pas vu venir les Sabres ni le Canadien. Tu sais, les Sabres...
Le train
des Sabres, je peux lui donner le bénéfice du doute parce qu'on était plusieurs à ne plus croire à ça.
Parce que le bateau semblait avoir coulé à Buffalo depuis un bout. Là, soudainement, la résurrection, on parlait de ça dimanche, là, mais tout ça avec la Pâque. Mais bon, la Pâque.
Mais je sais pas qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il n'a pas vu du côté de Montréal? Parce que c'est tapissé dans les médias depuis 5 ans que la reconstruction s'en vient et que cette équipe-là vise de grandes choses à partir de l'an prochain, l'année suivante.
On a fait les séries l'année dernière, je veux dire.
C'est pas une grande surprise, là, mais je pense que j'ai parlé à quelques collègues de Toronto qui étaient un peu impressionnés par cette conférence-là. Je pense que ce matin, là, j'imagine que si on ouvre la radio du côté de Toronto, doit y avoir quand même plusieurs sujets à aborder à la suite de cette conférence-là parce que on s'est éparpillé puis on n'a pas vraiment une idée plus claire de ce qui s'en vient du côté de Toronto.
Même Guillaume, Nick, l'amateur très moyen de hockey sait depuis combien de temps qu'il va y avoir un renouveau un jour ou l'autre dans la division de l'Atlantique. Les Sabres, les Red Wings, les Sénateurs, les Canadiens étaient en reconstruction. D'être un président et de dire « j'ai pas vu le train de Montréal arriver, celui de Buffalo », correct, comme Guillaume disait pour Buffalo, mais c'est quand même hallucinant. Montréal, ça reste ton plus important rival. Tu devrais connaître par cœur cette équipe-là. Ça peut te laisser certains doutes.
Ben, il connaissait Michael Hage.
Oui, il connaissait Michael Hage.
Il a prononcé
Hage,
Michael Hage.
Il a parlé de tous les jeunes du CH aussi. Ça, c'est l'inverse aussi. Tu regardes du côté de Toronto, celui qui va hériter du siège de directeur général de l'équipe, Brad Treliving, a échangé son choix de premier tour pour cette année. Il y a quand même des clauses, là. C'est un choix qui est protégé. Top 5 a échangé le choix de premier tour pour 2027. Tu sais,
Avec un peu de chance, les Blues de Saint-Louis sont l'équipe que les Maple Leafs doivent dépasser, là, entre guillemets, là, doivent aller rejoindre pour que le choix soit top 5. Puis les Blues sont encore dans la course aux séries éliminatoires. Donc, peut-être qu'on va revoir notre choix. Mais si on ne va pas revoir ce choix-là, ça va être long là, avant de mettre la main sur un espoir de qualité à Toronto. Là.
Puis les espoirs de qualité en ce moment à Toronto, l'espoir principal, ça reste Easton Cowan. Ils ont échangé Fraser Minton en plus d'un choix de premier tour pour Brandon Carlo aux Bruins de Boston. Fraser Minton est un des responsables, sans parler d'une renaissance des Bruins, mais de l'élan de cette équipe-là cette saison.
Juste sur le premier trio présentement.
Exact. Ils ont échangé un choix de premier tour pour Scott Laughton. Scott Laughton a toujours été un joueur marginal. C'est un centre de troisième trio dans le meilleur des mondes. En même temps, il y avait une grande pression de gagner immédiatement. Il pouvait voir le train arriver aussi. Là. Ça, tu sais, si on regarde le terme du train, là, à Toronto, tu devais gagner. Tu ne réussis pas à t'entendre avec Mitch Marner. Tu gardes tes deux joueurs de caractère qui sont Austin Matthews et William Nylander. Bien, résultat, c'est ce que tu vois en ce moment. Les Leafs ne participeront pas aux séries. Puis la structure financière de l'équipe aussi, c'est pas facile. Est-ce que l'ADC, Pelé disait, ça va être ma décision la plus importante, qui engager? Ça pourrait être un monstre à deux têtes aussi comme Montréal. Je pense qu'il a ouvert la porte à ce que ce soit un président ou un VP hockey et un DG. Il pouvait parler de peut-être deux personnes hockey.
Mais c'était pas déjà ça avec
Oui, il y avait Brandon Shanahan à l'époque, mais Shanahan a été congédié. Tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu décides d'échanger William Nylander? Est-ce que tu testes le marché pour Austin Matthews? Ben, est-ce que tu n'as pas le choix de te poser la question?
Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une des nombreuses déclarations de cette conférence-là, c'était je pense pas qu'on va aller vers une reconstruction complète parce qu'on a les pièces de la fondation dans l'équipe.
Ouais, mais c'est là, ça veut dire qu'ils vont les garder.
Combien de fois faut que tu vois que la fondation n'est pas bonne avant de réagir? Tu sais, je veux dire, Austin Matthews n'a jamais mené cette équipe-là loin en série. C'est ton capitaine. William Nylander, même chose. C'est quoi les pièces de la fondation à part ces deux-là? C'est-tu Easton Cowan? On a-tu tant d'espoir en lui? Tu sais, je pense au mieux.
T'as pas un gardien établi, t'as pas un gardien numéro un, je veux dire, Anthony Stolarz.
Non, exact. Fait que j'ai beaucoup de misère à comprendre cette déclaration.
À la ligne bleue, tu construis avec qui? Morgan Rielly reste ton meilleur défenseur, mais Rielly
est vieillissant.
Après ça, c'est Oliver Ekman Larsen.
Au-delà de ça, là, tu parles de fondation. Là. Reste que dans deux ans, il y a un mur qui peut tomber. Là. Parce que le contrat d'Austin Matthews se termine dans deux ans. Là. Puis là, peu importe ce que tu vas faire.
Puis qu'est-ce que tu fais avec Craig Berube? Je pense pas que la recette allait fonctionner.
Toronto, on fonctionne à l'envers. On a mis dehors notre président des opérations hockey en Brendan Shanahan. Là, on met dehors le directeur général en Brad Treliving. Puis là, Craig Berube est encore là. Normalement, tu fonctionnes à l'inverse. C'est 1-1-1 ou tout le monde en même temps que tu mets dehors. Mais on a toujours fonctionné. Puis c'est ça le problème. Puis Keith Pelley, ça va être ça son objectif. Quand il parle de la décision la plus importante, c'est pas qui va engager. Sa décision la plus importante, c'est de créer une structure qui sera pas dysfonctionnelle.
Exact.
Parce que c'est ça qui est arrivé. Le Shanahan Plan, Carl Dubus, son mèche chicané. Depuis ce temps-là, c'est dysfonctionnel. Parce que si c'est pas de la COVID là, qui a fait que le plafond a été limité, le Shanahan Plan, il fonctionne probablement parce que oui, tu as signé Tavares qui a un peu déstabilisé ta masse salariale, mais en même temps, la masse salariale aurait été plus haute. Tu aurais eu plus de possibilités, tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Carl Dubas, regardez ce qu'il fait présentement à Pittsburgh, ça va plutôt bien. Les Pingouins vont probablement faire les séries à moins d'un changement majeur. Donc, puis Pelé, j'écoutais un peu sur lui, Pelé, c'est pas un gars de hockey. Pelé, c'est un gars de direction sportive présentement. Lui, il gère six équipes à Toronto. Tout le portefeuille de Rogers là, au niveau de sportif, là, le soccer, le baseball, tout ça. Lui, il gère ça. C'est pas un gars de hockey. Si je suis lui, là, j'ai vu le train de Montréal arriver. Là. Je fais exactement copie-coller de ce que Montréal a fait. C'est-à-dire ce que Geoff Molson fait. Geoff Molson, il s'occupe surtout de la direction des affaires, tout ça. Il a engagé Jeff Gorton, puis après ça, il a dit, toi, engage quelqu'un d'autre. Pelé peut engager une personne en regardant vraiment ailleurs, mais il ne peut pas engager deux personnes. Si tu veux que ça fonctionne, il va falloir vraiment que la première personne, ton président des opérations hockey que tu engages, soit le kingpin. Va le chercher où tu veux. Il y a certains qui parlent de Doug Armstrong chez les Blues de Saint-Louis, qui est président là-bas, qui sera plus directeur général à partir de l'an prochain. Si c'est ça que ça prend, si tu réussis à convaincre les Blues, parfait, si c'est quelqu'un d'autre. Mais lui, vu son rôle, vu ce qu'il fait, je pense pas qu'il peut engager deux personnes. Il peut engager une personne, faut que ça soit la bonne. Bonne chance. Parce que là, hier, en conférence de presse, tout ça, il parlait, on veut des données, on veut des statistiques avancées, puis toutes nos décisions vont être basées sur les statistiques avancées. c'était pas les statistiques avancées le problème à Toronto, là. C'était la culture. Puis quand il a parlé de culture, il a dit, c'est une chose, la culture, c'est pas si important que ça. C'est secondaire par rapport aux données. Je fais comme, oui, moi, les statistiques avancées, j'adore ça. Mais c'est pas ça le problème à Toronto, là.
Non, puis à Toronto, tu sais, tu parles de... Auston Matthews, c'est son droit aussi d'aller chercher le plus d'argent possible, de monnayer son talent. Mais s'il y a un joueur qui a réussi à maximiser justement chacun de ses contrats au sein de la Ligue nationale, ça reste que c'est probablement Auston Matthews. Il n'y a personne dans cette équipe-là qui a accepté un petit peu moins au nom de la culture, dans l'espoir de gagner. William Nylander avait boudé, là, avait manqué un début de saison parce qu'il voulait plus d'argent. On a fini par lui consentir un contrat. Oui, la COVID a déjoué les plans de Kyle Dubas, il n'y a aucun doute, mais ça reste aussi que l'arrivée de Tavares à l'époque à 11 millions par année, avant de t'assurer d'avoir tes canons, tes jeunes canons à long terme, ça faisait en sorte que là, le nouveau plafond, il était 11 millions. Matthews, qui était un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, était pour demander plus. Marner voulait pratiquement la même chose. Donc, tu sais, quand tu parles d'une structure salariale, la gestion de ton plafond, c'est immensément important. Du côté de Montréal, ça a été bien ficelé depuis l'arrivée de Jeff Gordon et de Kent Hughes.
Et ce qui est intéressant à Montréal, c'est qu'on est sorti de la boîte. Kent Hughes, là, c'était sortir de la boîte pas à peu près, d'aller chercher un agent pour l'amener. Aussi, là. Martin Saint-Louis aussi. Donc, c'est pas vrai qu'il n'existe pas les candidats idéaux pour Toronto. Il faut que tu les trouves.
Mais des fois aussi, tu ne sors pas de la boîte puis tu engages John Tortorella.
On va en parler dans pas long, effectivement. Mais avant ça, je vous demande, vous êtes le nouveau président des opérations hockey. Tu t'en vas en entrevue, là. Change ça. Tu t'en vas en entrevue avec Keith Pelley. Tu lui dis quoi? C'est quoi la recette à Toronto pour relancer? Vous autres, là, carte blanche, vous faites quoi?
Tu prends une allumette. Tu jettes ça dans... De A à Z, je veux dire, tu regardes... Tu sais, la structure salariale n'est pas bonne. Tes leaders, tes meneurs n'ont jamais rien prouvé quand ça comptait. Ta banque d'espoir est vide. Fait que, je veux dire, rendu là, il faut que tu rebâtisses, il faut que tu ailles chercher des choix, faut que tu renfloues par le bas, faut que tu recommences à zéro parce que, tu sais, on a parlé, là, la fenêtre a été ouverte pendant assez d'années à Toronto, puis ça n'a pas donné les résultats, on n'a pas réussi. Là, la fenêtre s'est refermée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est refermé? Bien, on repart, puis on essaie de la réouvrir. Puis les Maple Leafs sont tellement loin de ça, je vois pas comment cette équipe-là peut se relever à la manière, mettons, des Capitals l'an dernier avec un petit retool, là, retool on the fly, là, ou je sais pas quoi.
Tu vas pas avoir en l'espace d'un été Jacob Chychrun et Pierre-Luc Dubois qui finissent dans ton club si t'es Toronto.
Non, c'est ça.
Non, tu comprends?
Non, mais faut que tu te poses des questions aussi. Tu sais, Auston Matthews, c'est 13 millions par saison. Ils viennent de passer de 107 points et 69 buts à 78 points, 33 buts la saison dernière. Cette année, oui, là, il est blessé. Résultat du coup de Radko Gudas, mais c'est 53 points et 27 buts en 60 matchs. Est-ce qu'on assiste à un déclin d'Auston Matthews à 28 ans? Depuis longtemps, on dit qu'il y a des problèmes avec son dos également. Auston Matthews à 13,25 millions pour cette année et encore deux autres saisons. Est-ce que tu essaies de l'échanger avant qu'il soit trop tard? Est-ce que tu essaies d'échanger...
Sa valeur sera probablement jamais aussi haute.
Exact. Parce que tu as les atouts quand même pour commencer
pour accélérer une reconstruction.
Exactement. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu t'en sers. Si tu t'en sers pas, ça va donner un cas à la Mitch Marner. Puis on a vu ce que ça a donné. Là. Le retour sur investissement était à moins 1000 là, du côté des Maple Leafs.
Tu sais, tu regardes ce que le mammouth de l'Utah, Coyote de l'Arizona, ou peu importe, là, a fait dans sa reconstruction avec très peu d'éléments. Là, on s'entend, là, on n'avait pas beaucoup d'éléments quand on a reconstruit. Puis on est déjà une équipe de série quelques années plus tard. Ben, c'est encore plus la preuve. Tu peux plus avoir des demi-reconstructions. Ça arrive, des retours, ça peut arriver, des accidents de parcours, mais un retour fera pas de toi une équipe aspirante à la Coupe Stanley.
Mais ce qui fait vraiment mal, par contre, à te lancer dans une reconstruction, c'est qu'en 2027, t'as pas ton choix de premier tour. en 2026 non plus.
Mais tu peux aller en chercher un.
Tu vas en chercher ailleurs.
Ça. Ben, c'était ça que l'Arizona avait fait aussi. Là. Ouais. Il avait souvenez-vous, il y avait une histoire de... On avait perdu tous nos choix là, à cause de tests physiques et tout ça. Là, puis c'est ça. Là, donc c'est ce qu'on avait fait. Mais comme je dis, d'un côté, regardez ce que les Canadiens ont fait. Il faut que tu t'inspires de ça. De l'autre bord, il y a des preuves que faire une reconstruction, ça ne se fait pas à moitié. Il faut que tu ailles de l'avant. Fait que si je suis Toronto, j'espère. Parce que sinon, j'arrive en entrevue et on me dit non, c'est un retool ou rien. Je suis pas sûr que j'accepte la job.
Ouais, mais le retool, le coup de baguette magique, c'est d'espérer que Matthews redevienne Matthews. C'est d'espérer que William Nylander va te produire 90-100 points.
C'est pas un
ta défensive.
Ça,
non, mais c'est ça. C'est des prières avec peu de choses.
c'est la fée marraine dans Cendrillon qui transforme une citrouille en carrosse, puis je sais pas, des rats en chevaux. Là, fait un bout, j'ai pas lu Cendrillon.
Il manque de profondeur aussi à cette équipe-là. Ça, là. Donc, bonne chance à celui qui va prendre ce siège.
Non, puis si tu veux te comparer, puis je pense que Keith Pelley semble se comparer aux autres équipes de l'Atlantique, là. Tu regardes les Canadiens, tu regardes les Sabres.
Bien, c'est ça.
Ce sont des équipes qui, sur une période de 5, 6, 7 ans, vont être compétitives. Là, toi, si tu fais un retool, est-ce que tu vas être capable de battre ces équipes-là? C'est pas garanti. Là.
Tu regardes le Lightning.
Ah, exact.
Les Panthers, tu peux croire un coup de baguette magique pour l'an prochain parce qu'il y en a un qui s'appelle Alexander Barkov qui va revenir au jeu. Après 3 fois d'affilée en finale de la Coupe Stanley, ça peut être pardonnable, l'essoufflement des Panthers cette année. Les Leafs, ça reste une autre histoire.
Oui, totalement. C'est vraiment, mais vraiment pas le temps de faire le retool. Mais bon.
Mais c'est ça qui va arriver.
Je le sais. Puis c'est ce qu'on a senti hier dans la conférence de presse, que c'était pas le temps, c'était pas question d'avoir une équipe qui commence à perdre comme, souvenez-vous, là, au milieu des années 2010. Là, mais ça va leur avoir donné 9 années de série. Il y a pas mal de clubs qui rêvent à ça, 9 années consécutives de série. Oui, c'est des échecs. Oui, au final, ça va avoir été un gros échec, toute cette reconstruction-là de l'époque. Mais le chemin qu'on a fait pour la faire était le bon à l'époque. Donc, on verra bien ce qu'on va s'inspirer.
Juste là, pour revenir sur Matthews, là, 13,25 millions, là, c'est pratiquement Suzuki et Caulfield ensemble. Suzuki, c'est 7,875. Caulfield, 7,85. Donc, grosso modo, on parle de 15 millions pour Suzuki, Caulfield, Matthews, 13,25.
Différence culturelle, c'est là que ça, là qu'on voit toute la différence. Là. C'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit.
Ça n'a aucun sens à quel point la gestion des salaires des Canadiens de Montréal a été faite de manière incroyable.
Mais ils ont aussi signé Suzuki. Suzuki, c'est Marc Bergevin, mais ils ont eu l'intelligence d'offrir des contrats de 8 ans le plus long possible au bon moment. Slavkovski aussi, ça pouvait sembler un pari. Là. Il n'avait pas encore atteint un potentiel si intéressant la journée que Gorton et Hughes ont dit « Ben go, on va lui donner 8 saisons ». Caulfield, même chose. Hudson aussi. Donc, ben bon, ça sert à rien de passer 22 minutes là-dessus. On connaît le sujet.
Oui, c'est ça. Puis, au final, ça va te prendre un peu de chance. Parce que si on parle de Suzuki, là, si Marc Bergevin, dans la transaction Pacioretty, va chercher Cody Glass.
Oh oui, c'est une autre histoire.
Au lieu de Suzuki, on n'a pas le même discours.
Si le Canadien repêche Cam York au lieu de Cole Caulfield.
Caulfield.
Merci aux Flyers.
Y a une seule équipe jusqu'à la mi-deuxième ronde qui prend Lane Hudson avant que Lane Hudson se rende jusqu'au choix des Canadiens.
C'était impossible qu'il sorte avant. Il avait tout calculé. Il avait la confiance qu'il était pour sortir 60 ou 62, Lane Hudson. Ça me fait tout le temps rire, cet argument-là, parce qu'ils ont quand même repêché Philippe Méchard et Owen Beck avant.
Oui, c'est ça. Donc, il y avait le choix, il y avait la possibilité. Quand je dis ça prend un peu de chance, ça va en prendre.
Oh oui, tout à fait.
Oui, on t'en parlait, t'en as glissé un mot, mais les Golden Knights de Vegas qui congédient Bruce Cassidy, l'entraîneur qui leur a donné la Coupe Stanley, mais on engage John Tortorella dans une décision qui est purement à l'image de ce que les Golden Knights nous ont montré depuis leur début dans la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire le terme en anglais, là, cutthroat, là, je cherche le terme en français, là, mais sans pitié, hein, je pense qu'on pourrait traduire ça comme ça. Il fallait un changement, puis je lisais les propos de Kelly McCrimmon, qui a dit « on a attendu, mais il n'y avait plus d'énergie dans cette équipe-là, il n'y avait plus l'étincelle, ça prenait une étincelle. » Bon, là, on a fait appel à John Tortorella, qui, lui, a son bidon d'essence toujours près de lui, mais Tortorella... Quand tu regardes le profil, quand tu regardes ce qu'il est capable de faire souvent avec une équipe qui sous-performe, c'est certainement pas un mauvais candidat.
Non, mais je pense que pour ce qu'on veut accomplir du côté de Vegas à 10 matchs de la fin de la saison régulière, c'est le bonhomme. C'est un gars qui est capable, à court terme, je pense qu'il est capable d'obtenir des résultats. T'sais, c'est souvent l'effritement avec John Tortorella qui cause... la rupture éventuelle. Donc là, si on regarde à court terme, pour la fin de la saison, pour les séries éliminatoires, je pense que c'est un gars qui peut aller motiver cette équipe-là, aller chercher le meilleur de cette équipe-là, qui est, tu sais, je veux dire, on regarde sur papier, c'est quand même une équipe qui est supposée être parmi les bonnes équipes de la Ligue. Cette année, ça a juste... La sauce n'a pas pris du côté de Vegas. Puis, tu sais, tu regardes la situation, là, c'est quand même la troisième formation la plus vieille de la Ligue nationale. On n'a absolument aucun espoir dans la banque d'espoir. Il reste un choix de première ronde en Trevor Conley depuis que l'équipe existe. On a tout échangé ces choix-là. On a échangé les joueurs qu'on a repêchés. On a échangé les choix de première ronde l'an prochain, l'autre année d'après. On n'a pas de choix de première ronde. Donc, cette équipe-là doit gagner maintenant. Ça a toujours été la culture à Vegas. On gagne maintenant. Là, tu peux pas te permettre, avec la troisième formation la plus vieille de la Ligue, d'arriver en série puis de t'écraser, parce que là, depuis la pause olympique, là, avant le congédiement de Bruce Cassidy, c'était une fiche de 5-10-2. C'est pas très encourageant à l'approche des séries. Donc, fallait réagir. Ouais. La solution facile, c'est ça. Je peux pas dire que je suis en désaccord ou en accord. C'est juste, dans la situation des Golden Knights, ça fait quand même du sens, la décision qu'ils ont prise cette semaine.
Guillaume, on en parlait cette semaine au téléphone. C'est pas l'équipe non plus qui a la plus grande fidélité avec ses employés.
Non.
Bruce Cassidy, c'est celui qui a gagné la Coupe Stanley avec les Golden Knights, mais c'est pas grave. Bon, Marc-André Fleury peut en parler, Jonathan Marchessault pour en parler.
Mais Gérard Galland,
donc ça fait partie de la culture. Pete DeBoer, ça fait partie de la culture de l'entreprise. C'est gagne maintenant. Puis John Tortorella, c'est à l'image de Vegas. C'est un peu comme notre jeune collègue Gab Duhamel qui arrive au casino tout souriant, puis c'est rouge ou noir. Là. Tu sais, tu y vas... C'est soit que tu relances l'équipe, soit que le feu continue, tu n'étais pas capable de l'éteindre. Tortorella, par contre, connaît Jack Eichel, connaît Noah Neffin. Tort, c'était un des adjoints à Mike Sullivan aux Jeux olympiques du côté de Milan. Autant il a la réputation d'un torsionnaire, ça doit marcher à sa manière. Quand même, quelqu'un, si tu parles à travers la Ligue, si tu parles à Martin Saint-Louis, si tu parles à certains joueurs... Ceux qui l'ont aimé, l'ont beaucoup aimé. Ceux qui l'ont détesté, l'ont énormément détesté. Donc, ça revient un peu à un rouge-noir au casino. Tu mets ton argent, t'espères que ça tombe sur la couleur que tu mises. C'est une équipe qui sentait que ses chances de gagner cette année commençaient à s'évaporer. Puis on a quand même misé gros avec l'acquisition de Mitch Marner. Sur papier, ils ont les ingrédients. Mais devant le filet, c'est catastrophique depuis le début de la saison. Là. Tu sais, quand Montréal avait une mauvaise passe cette année, c'est la même histoire du côté des Golden Knights. C'était les gardiens, Akira Schmid, 893, son pourcentage d'arrêt. Eden Hill, 868. Carter Hart, 871. Puis Carl Lindblom, qui a joué quelques matchs, 873. T'as même pas un gardien qui s'approche de 900. Schmid peut-être un peu, mais Eden Hill a une saison de misère. Donc, pas de gardien, pas de succès.
Mais là, sauf qu'en mars, dans le dernier mois, c'est pas ça le problème. On compte pas de buts.
Ouais.
On est la pire équipe de la Ligue offensivement. Avec Mitch Marner, avec Jack Eichel, avec Mark Stone, avec Pavel Dorofiev qui a compté 35-40 buts presque l'an passé. Thomas Chartel. Mitch Marner joue au centre.
Mais là, tu avais peut-être un coach qui plaçait trop l'emphase sur protéger tes gardiens. Ça a peut-être fini par nuire aux attaquants. Puis on a décidé de brasser la soupe du côté des Golden Knights. Mais s'il y a une équipe qui est souvent très audacieuse, ça reste les Golden Knights. Puis eux, cette année, ils s'étaient bâti un club pour gagner. Là. Mais ils sont encore dans la division de clowns. La division de... On va reprendre les mots de Connor McDavid, là, une bataille d'oreiller, mais c'est ça, là, c'est cette division-là, Pacifique, malgré tout, les Golden Knights restent en bonne position pour sortir de cette division-là. Là.
Mais là, je me disais, attention, les Oilers commencent à se fâcher. Là. Même sans Draisaitl jusqu'à la fin de la saison, là, on vient d'en gagner 4, puis peut-être que... Écoute, les Oilers qui cliqueraient en fin de saison, puis McDavid qui terminerait l'année avec 30 points en 12 matchs, là, ça serait pas si surprenant que ça. On verra bien, mais je vais ajouter, quand on regarde ce que Rick Bowness a été capable de faire avec les Blue Jackets, lorsqu'il a été embauché, un vieux de la vieille Rick Bowness, tu regardes ça, puis te tourner vers John Tortorella, c'est parfaitement logique chez les Golden Knights. Regardez bien ça. Si finalement, on ne va pas les retrouver en finale de la Coupe cette année parce qu'il va avoir eu... on va avoir passé à travers le Pacifique puis tout va avoir cliqué. Mais la perte d'Alex Pietrangelo dans cette équipe-là, on dirait que ça va avoir été... Ça aurait fait plus mal qu'on pensait là, cette année, justement, pour l'équilibre défensif.
Mais c'est un meneur aussi, Pietrangelo.
Oui, c'est ça. Fait qu'il te manque, cet élément-là. Que,
mais écoutez, les boys, je veux pas manquer de respect à cette division-là, là. Mais en termes strictement écoute, pour nos partisans des Oilers ou les partisans de Vegas, juste pour replacer un petit peu de contexte, là, l'équipe qui est au sommet ne participerait même pas aux séries dans l'association de l'Est. Donc Anaheim à 87 points. Serait
dans la course au quatrième art.
Dans le même groupe que les Sénateurs, les Red Wings, les Flyers et les Capitals. Donc, c'est
on
un,
serait derrière
c'est quand même
les Blue
un monde
Jackets
de
ce matin. C'est en même temps, je veux dire, tu joues pas avec urgence. Tu es la section Pacifique présentement, peu importe l'équipe, il n'y a pas d'urgence. Là. Fait qu'il manque, cette étincelle-là aussi. Là.
L'urgence,
les
ça commence
dans l'Est,
à se dire est-ce qu'on va s'assurer de participer aux séries. Là? Je pense que c'était. Il avait peur que ça continue de trop glisser. Mais même là, les Kings de Los Angeles sont à 76, les Golden Knights à 92, mais les Kings ont deux matchs en main. Mm. Donc, c'était peut-être là l'urgence. Les Sharks, 75, avec trois matchs en main. Donc, oui, le coussin n'était pas si gros, Nick, pour prendre un de tes mots préférés.
On va transférer le coussin dans l'Ouest.
Oui, c'est ça, exactement. Hey, les gars, merci d'avoir été avec moi ce matin pour ce balado.
Toujours
ça
un plaisir.
Fait plaisir.
JF, on peut lire ton texte avec Matt Nasnoun sur le site de lnh.com. On pourra lire vos textes. Les gens, allez sur le site. D'ailleurs, Guillaume, tu as parlé avec Olivier Frégeot. Les gens qui... Ça vous dit probablement rien à la maison, mais Olivier Frégeot, c'est il a quoi, il a 27 ans?
Ouais.
OK. Un jeune homme de 27 ans qui a visité les 32 arénas de la Ligue nationale de hockey, qui a terminé son parcours dernièrement. Bonne histoire. Bonne histoire, Guillaume. C'est vraiment intéressant. Oh. Puis moi, c'est un rêve que j'avais avec les stades de baseball, de me dire un jour, je vais aller faire une tournée aux États-Unis puis aller voir tous les stades de baseball. Avec le prix du gaz présentement, je pense qu'on va laisser faire. mais c'est ça. Donc, texte super intéressant. Puis le reste de votre travail, comme à l'habitude. Messieurs, disponible sur lnh.com. Chers auditeurs,
juste oui, surpris, vas-y. Guillaume, que tu n'avais pas écrit que sa ville préférée, c'était Saint-Louis. Mais ça, c'est peut-être dans ton deuxième
texte. Non, c'était pas dans son top 5. Edmonton est dans son top 5, par contre.
Non, mais il y a un très bon top 5, soit dit en passant. Là. C'était quoi? C'était Montréal, Vegas, Chicago,
Nashville et Edmonton.
Ouais, non,
mais c'est un classement sur l'ambiance dans l'aréna.
Ah, exact.
Donc, on parle pas de la ville dans l'ensemble.
Des bons choix.
Fallait... Respect, il dormait pas quand il était dans les estrades, il était attentif.
Saint-Louis,
c'est un top 5.
Saint-Louis, Saint-Louis aurait peut-être pu y aller à l'époque du Checker Dome, mais...
Non, c'est juste faire un clin d'œil à Saint-Louis.
Guillaume est jeune pour le Checker Dome. Tu revois sur Google, mais mettons que c'était le temps d'en construire un nouvel aréna pour les Blues dans le temps, quand c'était construit. Merci les gars d'avoir été là aujourd'hui. Comme je vous disais, chers auditeurs, bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au balado pour ne pas rater le prochain épisode alors que les séries éliminatoires sont vraiment à nos portes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.